Alors, imaginez qu'un jour, vous vous présentiez à la mairie afin de renouveler votre carte d'identité républicaine. D'accord? Vous déposez les documents nécessaires et vous rentrez chez vous sans souci. Quelques semaines plus tard, on vous signale que votre nouvelle carte est disponible en mairie. Mais au moment de récupérer votre carte, vous remarquez qu'au lieu d'un titre d'identité, on ne vous donne qu'un titre de séjour. Un titre de séjour. Alors vous faites remarquer qu'il y a une erreur sur la carte, mais on vous explique qu'en fait, vous êtes maintenant et désormais un étranger en France. Un étranger en France. Votre identité, votre statut civil ont été officiellement modifiés. Vous n'appartenez plus ni à votre pays, ni à aucun autre. Oui, vous êtes libre de rester temporairement, voire difficilement, sur le territoire, mais avec une nouvelle identité. Vous êtes désormais étiqueté étranger. Étranger. Alors, si vous êtes croyant, est-ce que c'est très différent, ça, de votre vie en Christ? Vous êtes un résident temporaire dans ce monde, n'est-ce pas? Vous êtes citoyen du royaume de Dieu avant d'être citoyen d'un royaume humain. Vos priorités sont ou devraient être celles de Dieu. Vous parlez la langue de la grâce et de la repentance. Vos références culturelles sont celles de l'Église. Votre histoire est inséparable de l'histoire du peuple de Dieu dont vous faites partie. Votre carte d'identité porte la marque de Christ. Votre passeport pour entrer au ciel est la foi en Dieu. Vous êtes vêtu d'une espérance éternelle qui vous démarque dans ce monde. Vous êtes après tout un étranger. Et cela n'est pas très positif aux yeux du monde, n'est-ce pas? Vous êtes perçu tantôt comme un snob moral, tantôt comme un fanatique religieux, tantôt comme un idiot. Vous gaspillez votre temps à l'église. Vous croyez aux fées et aux lutins. Vous êtes différent, pas comme le reste du monde. Vous êtes étranger. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série dans la première épître de Pierre qui s'adresse aux chrétiens du premier siècle. Quand l'apôtre Pierre a écrit cette lettre aux églises en Asie mineure, il a dit qu'il s'adressait aux étrangers dans la dispersion. Aux étrangers dans la dispersion. C'est-à-dire aux gens qui sont devenus des étrangers dans leur propre patrie parce qu'ils sont devenus chrétiens. Il s'adressait aux gens qui vivaient dans une dissonance inconfortable entre deux mondes. Mais il veut nous rappeler à ce propos aussi que Dieu nous accompagne pendant notre séjour en territoire étranger. Je vous invite donc à la lecture d'1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions afin que tu nous conduises maintenant dans cette étude de ta parole. Seigneur, éclaire ce texte par ton esprit qui nous habite et fais en sorte que nous mettions en pratique ce texte pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors en lisant ces deux versets, nous découvrons qui est l'auteur de ce texte et qui sont les destinataires de cette lettre. Mais il y a beaucoup d'autres choses que l'apôtre Pierre nous révèle dans cette courte introduction. Ces deux versets tout simples ont une grande richesse à communiquer à l'Église dont nous faisons partie aujourd'hui. Déjà, l'origine de cette lettre est une source de joie, n'est-ce pas? cette lettre vient de quelqu'un qui a connu Jésus personnellement. Elle vient de quelqu'un qui a vu les miracles de Jésus. Quelqu'un qui a tout abandonné afin de suivre le Christ. Pierre était là quand Jésus a guéri les aveugles et les boiteux. Pierre lui-même a entendu une maman pleurer sur le corps de son enfant. Il a vu l'émerveillement sur les visages des gens quand Jésus a dit à cet enfant, « Jeune fille, lève-toi. » C'est Pierre qui est sorti aussi du bateau pour marcher sur les eaux avec Jésus. Pierre qui a douté, qui s'est enfoncé dans l'eau. Pierre qui a crié, « Seigneur, sauve-moi !» en saisissant la main de Jésus. C'est Pierre qui a nié ce même sauveur, qui a pleuré de remords. C'est Pierre qui a été transformé par la résurrection de Christ. Donc imaginez la joie de recevoir une lettre de la part de l'apôtre Pierre, adressée à vous et à votre Église. Ce serait une raison de se réjouir. Alors bien sûr, il y a toujours ceux qui doutent de l'origine de cette épître, en disant qu'elle a été écrite plus tard, au deuxième siècle peut-être, que c'est une contrefaçon, que le grec utilisé dans cette lettre est trop bon pour être le langage d'un pauvre ouvrier de Galilée. Mais ce refus est souvent basé sur le présupposé que la Bible n'a pas été inspirée de Dieu, que le christianisme est une falsification, que nous sommes plus qualifiés que l'Église primitive pour évaluer l'authenticité de cette lettre. Mais ce genre de snobisme n'est pas juste. L'Église primitive a accepté l'autorité de cette lettre, qui est cohérente avec l'enseignement du reste de la Bible, qui porte la marque d'un ami proche de Jésus. Et pour faire une comparaison, si aujourd'hui, maintenant, un Américain est capable d'apprendre suffisamment le français pour pouvoir prêcher une prédication assez cohérente, je pense que Pierre aurait pu apprendre suffisamment le grec pour pouvoir écrire une lettre cohérente sous la direction du Saint-Esprit et peut-être avec l'aide d'un ou deux amis. Vous voyez? Il n'y a pas de raison de douter de l'autorité, de la fiabilité de cette lettre. Mais quelle consolation Pierre offre-t-il à ces chrétiens qui vivent comme des étrangers dans le monde? Quelle espérance existe-t-il pour ses frères et sœurs en Christ qui vivent dans cette dissonance spirituelle? En effet, que nous dit Pierre à nous aujourd'hui qui vivons aussi dans la dispersion comme des exilés? D'abord, Pierre rappelle aux chrétiens qu'ils sont élus. Ça veut dire que nous sommes choisis par Dieu selon sa connaissance parfaite et dans son amour indéfectible. Ça veut dire que Dieu a choisi de sauver certaines personnes qui étaient condamnées à cause de leur propre rébellion contre Dieu. Ça veut dire que si l'humanité, dans sa rébellion contre Dieu, marche obstinément vers le bord de la falaise et vers sa ruine, Dieu, dans sa grâce, arrache quelques-uns à leur sort funeste, sans obligation, mais parce qu'il est tout simplement un Dieu d'amour. Ça veut dire que Dieu transforme des gens qui le méprisent en des gens qui l'aiment. Il nous retourne et nous fait marcher dans le sens contraire à ceux qui vont vers la mort. Mais marcher à contresens n'est pas évident. En marchant vers Dieu, nous allons à contre-courant du monde. Nous devenons des étrangers aux yeux de ceux qui périssent. En étant élus pour le salut, nous sommes également élus pour être des étrangers dans ce monde. Le fait d'être élu comme étranger dans ce monde implique que notre identité est transformée. En ne portant plus la culpabilité sur nos épaules, mais la faveur de Dieu. On ne peut pas cacher le fait qu'on n'appartient plus à ce monde. On ne peut pas vivre comme les super-héros des bandes dessinées qui dissimulent leur vraie identité en espérant que personne ne les découvre. On ne peut pas vivre comme les acteurs qui laissent l'identité fictive de leur personnage derrière eux à la fin de la journée. On ne peut pas faire comme Pierre, la nuit où Jésus a été livré. quand il a renié son Seigneur, en étant en proie à la peur, à l'angoisse. Non, les disciples de Jésus sont élus pour vivre dans une dissonance gênante et temporaire, mais nécessaire. Ce texte nous apprend que Dieu nous accompagne pendant notre séjour en territoire étranger. Il y a un double effet à notre élection. Les chrétiens sont élus par la grâce de Dieu comme bénéficiaires du salut. Mais en recevant cette grâce, nous contrevenons aux priorités du monde. Nous devenons des étrangers dans notre propre patrie. Mais ensuite, Pierre nous rappelle notre consécration. Ceux qui sont élus sont mis à part pour le service de Dieu. Les étrangers spirituels dans ce monde à qui Pierre s'adresse sont désignés pour et dédiés à la sainteté. Le texte nous dit que les chrétiens sont sanctifiés, ce qui veut dire, encore une fois, mis à part. Alors ça ne veut pas dire que nous, les chrétiens, nous avons été arrachés et enlevés du monde. Plutôt, en restant dans le monde, nous sommes consacrés pour un but précis. Nous sommes soumis à une transformation morale, à une transformation spirituelle par la foi en Christ et en son sang versé pour nous à la croix. Nous n'obéissons plus au monde, mais à Dieu, en sachant que Dieu nous accompagne pendant notre séjour en territoire étranger. Comprenez bien que cette obéissance à Dieu ne vient pas par la contrainte, mais par une relation avec lui. Ce texte nous montre que notre sanctification, notre obéissance ne vient pas par la contrainte ou par une obligation coercitive. Dieu nous change par sa relation avec nous, en nous aimant, en nous pardonnant, en nous redressant. Il œuvre malgré nous. Après tout, nous, les êtres humains, avons des difficultés par rapport à nos devoirs, n'est-ce pas? Si ce n'était pas obligé, on ne le ferait pas, n'est-ce pas? Et si c'était obligé, on se rebellerait. Quand on demande aux enfants de mettre le couvert, de faire la vaisselle, de ranger leur chambre, ils nous répondent par des excuses des fois, n'est-ce pas? Ils n'ont pas envie de le faire. Mais si on ne leur demande pas, ils ne contribuent pas au bien de la maison. Ou au travail, par exemple. On n'est pas toujours très motivé, donc si ça dépendait de nous, on ne travaillerait pas vraiment. Mais quand le patron nous dit de faire un effort, qu'est-ce qu'on fait? On se rebelle, n'est-ce pas? On se rebelle un peu et on murmure entre les dents. Ça, c'est la nature humaine par rapport à nos obligations, à nos responsabilités. Peut-être qu'on traite nos obligations spirituelles de la même manière. On porte la marque d'un élu de Dieu, mais sans avoir envie de vivre comme un exilé ou un étranger dans ce monde. Mais en fait, Dieu promet de sanctifier ses élus par l'œuvre du Saint-Esprit qui vit en nous, par la grâce de Dieu et dans son amour. Il veut nous retourner et nous maintenir dans le sens contraire de ceux qui périssent. Mais finalement, Pierre rappelle à l'Église la bénédiction qu'elle a reçue en Christ. Il y a une grâce, une paix qui nous soutiennent pendant ce séjour temporaire et qui nous accompagneront pour toujours. La bénédiction qu'on voit au verset 2 définit notre identité en tant qu'étranger, de la même façon qu'elle a défini nos frères et sœurs du premier siècle. Dans un sens, ces deux premiers versets d'un Pierre, chapitre 1, sont une sorte de carte de vœux envoyée à l'Église de la part de Pierre. Peut-être que vous avez déjà reçu une carte de vœux, une lettre de la part d'un bon ami. En fait, quelques fois par an, moi, je reçois une lettre comme ça, de la part d'un ami. Cela me touche plus qu'un coup de fil, plus qu'un email, parce qu'une lettre bien écrite, ça prend du temps à faire, n'est-ce pas? Cela nécessite la réflexion, la planification, le bon choix des mots. Ce n'est pas aléatoire, une lettre. C'est intentionnel. Un mot d'encouragement de la part d'un ami Ça peut être le remède de toutes sortes de difficultés, de souffrances, de découragements dans la vie. Alors imaginez que vous receviez cette lettre de la part de l'apôtre Pierre himself. Mais cette lettre, c'est plus qu'un mot d'encouragement, en fait. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Elle contient une déclaration de la vérité concernant des réalités spirituelles. Donc, quand Pierre dit que la grâce et la paix soient multipliées, il communique un désir, un souhait pour l'Église. Mais il communique plus que cela. Ces mots sont une déclaration de l'état des croyants. En tant que chrétiens, nous vivons dans un état constant de grâce et de paix. Ces mots d'encouragement sont une déclaration de notre identité en Christ. Par la foi en Christ, nous sommes rachetés par la grâce de Dieu. Par la foi en Christ, nous sommes héritiers du repos spirituel qui durera à jamais. Alors c'est vrai que nous n'avons pas toujours l'impression d'être sous la grâce ou sous la paix de Dieu. On n'a pas toujours l'impression d'être béni. Après tout, comment pourrait-on être béni si on est un étranger dans ce monde? Est-ce que je suis vraiment béni de faire l'objet des moqueries de mes potes à cause de ma foi? Est-ce que je suis vraiment béni quand ma famille pense que je suis fou de passer mes dimanches à l'église? Est-ce que je suis vraiment béni quand la Bible m'appelle à m'abstenir de certaines activités que j'aime, mais qui ne nourrissent que ma nature pécheresse? Est-ce que je suis vraiment béni quand je suis mal compris par le monde? Il y a des chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont en train de se demander, est-ce que je suis béni d'être en prison à cause de ma foi? Est-ce que je suis vraiment béni d'être tout seul? Est-ce que je suis vraiment béni de devoir tout perdre? De notre point de vue, il y a des inconvénients d'être des étrangers dans ce monde. Nous avons peut-être l'impression d'avoir raté le départ d'une croisière luxueuse. Nous ne pouvons que dire adieu à nos proches qui disparaissent à l'horizon, n'est-ce pas? C'est décevant et même dur pour nous qui restons sur le rivage. Mais quand ce bateau se met à couler en pleine mer, ça met les choses en perspective. La bénédiction est déguisée, en fait, parfois, dans notre vie. Mais avec la perspective de l'éternité, ça devient plus clair. Selon ce texte, la grâce et la paix de Christ sont pour toujours. Dieu nous accompagne pendant notre séjour en territoire étranger. Alors, que retenir de ce texte? Que retenir de ce texte? Comment vivre en tant qu'étranger dans ce monde? Je dirais, en premier, n'aie pas peur d'être étranger. N'aie pas peur d'être étranger dans un monde hostile. C'est vrai que vous êtes étranger dans ce monde. C'est vrai que vous êtes exilé dans un territoire qui est hostile à la vérité de Christ, à la vérité de son œuvre, à la croix. Mais n'ayez pas peur. Dieu a un plan pour ses élus, selon sa préscience, comme on lit dans ce texte. Ce qui inclut votre salut, par la foi en Christ. Ça inclut aussi votre sanctification, afin de vivre complètement pour Dieu. Alors imaginez que vous alliez à un match de foot pour soutenir l'OL contre leur rival principal, Saint-Étienne, d'accord? Alors, ce match aura lieu à Saint-Étienne, d'accord? Et donc, vous entrez dans le stade des Stéphanois et vous remarquez que votre place est à côté des hooligans, des vrais fanatiques militants, d'accord? Ils chantent la violence contre l'OL, contre ses supporters. Ils sont prêts à vous renvoyer du stade à coups de pied dans le derrière si vous êtes découvert. C'est vraiment chaud. D'accord? Vous êtes tout seul dans un territoire hostile. Vous n'avez pas envie d'enlever votre veste et de révéler votre maillot de l'OL qui vous portez en dessous. Vous n'avez pas envie d'encourager votre équipe, mais même si elle est en train de remporter le match, vous restez silencieux. Mais Est-ce qu'on vit comme ça en tant que chrétien des fois, avec la peur de notre statut en tant qu'étranger dans un territoire hostile? Est-ce que nous avons peur, nous qui sommes élus par notre Père céleste, nous qui sommes consacrés et mis à part pour le service du roi de l'univers, nous qui sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ, est-ce que nous avons peur? N'ayez donc pas peur d'être des étrangers dans ce monde. Mais ensuite, je vous encourage à reconnaître la grâce de Dieu dans votre vie. Vous n'êtes pas un accident dans le plan de Dieu. Si vous êtes présent, si vous êtes présent aujourd'hui, avec le désir de suivre Christ, avec une foi, même une simple foi en lui, avec la conviction que la Bible vous offre quelque chose de bon et d'efficace, c'est parce que Dieu œuvre en vous. Le Dieu souverain de cet univers œuvre pour le bien de ses élus. Vous n'êtes pas juste un accident. Vous êtes important pour Dieu. Et donc, obéissez au roi de votre vraie patrie. En tant qu'étranger dans ce monde, vous représentez Dieu, son royaume et ses valeurs. Et non le consensus, par exemple, de la société sur la morale, non les diverses idéologies politiques, non les courants de pensée des médias, non les âneries de ce monde. Vous êtes mis à part par Dieu et pour son service. Et donc en marchant à contresens dans ce monde, en obéissant aux commandements de Dieu, en cherchant toujours la vérité, en annonçant la bonne nouvelle, soyez assurés que Dieu nous accompagne pendant notre séjour en territoire étranger. Je vous invite à la prière. Aide-nous, Seigneur, à vraiment mettre à profit notre séjour dans ce monde. Seigneur, permets-nous de voir ta présence dans notre vie. Réconforte-nous, Seigneur, nous qui sommes comme des exilés, comme des étrangers, et qui sommes appelés à te servir dans un monde qui est souvent hostile au message de la Bible. Seigneur, aide-nous à vivre sincèrement dans la paix et dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas un iPhone, donc j'ai aucune idée de comment ça marche. Désolé.